Vous êtes sur RTL.
Nous sommes avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais tout de suite, notre revue de presse, Amandine Bégaud. Et d'abord, ces stars à 8h40 du football brésilien, toutes derrière Bolsonaro, le candidat de l'extrême droite au Brésil.
Oui, Bolsonaro, vous savez, c'est celui qu'on a surnommé le Trump des tropiques, ce candidat au discours sexiste, homophobe et raciste, et qui a bien failli être élu dès le premier tour dimanche dernier à la présidence. Eh bien, il a le soutien de tous les footballeurs brésiliens, tous ou presque. Pas anodin, hein, dans un pays où, on le rappelle, le football est une religion. Premier d'entre eux, Ronaldinho, dimanche, le jour du scrutin, il a, explique l'équipe, posté une photo de lui, maillot brésilien sur le dos, accompagné de ce commentaire « Pour un Brésil meilleur, la paix, la sécurité et quelqu'un qui nous rende la joie de vivre ». Message liké, comme on dit, par plus de 2 200 000 personnes, dont de très nombreux footballeurs, Cafu, Claudio Taffarel, Rivaldo ou encore Edmundo. Ils sont, écrit l'équipe, tous tombés sous le charme de ce sexagénaire, pourtant insultant avec les minorités. Or, les minorités, ils en ont fait partie pendant des années, oui. Et dont le signe de ralliement imite un pistolet imaginaire. On est loin, très loin des valeurs défendues habituellement par les stars du foot, loin aussi du combat de Socrates, le grand frère de Rai, qui dans les années 80 avait milité contre la dictature. Ces footballeurs, explique un journaliste brésilien, sont finalement le reflet de la société, en colère contre la politique à l'ancienne et en même temps politiquement ignorant. Ils ne savent pas, poursuit-il, quel est vraiment le programme de Bolsonaro, ni même ce qu'est l'extrême droite, mais ils se laissent convaincre par des discours primitifs. Ils tombent, conclut le journaliste, dans le panneau sans se soucier du futur du pays. L'équipe qui fait sa une ce matin sur le héros du jour, bien sûr Mbappé, Mbappesque hier soir face à l'Islande. Le joueur, on vous en a parlé, est aussi à la une cette semaine du prestigieux Time Magazine. Et bien le Parisien aujourd'hui en France raconte ce matin sur son site internet les coulisses de cette interview. Le journal a rencontré celle qui a réalisé cet entretien. Elle s'appelle Vivian Walt. Je ne savais pas, confie-t-elle, que ce serait la une, hein, pas jusqu'à cette semaine. Et Mbappé non plus. On ne dit jamais, explique-t-elle aux personnes avec qui on fait les interviews, si elles seront ou non en couverture. Cet entretien, poursuit-elle, a été réalisé à la fin du mois d'août. Il y a donc plusieurs semaines. On a attendu longtemps avant de la publier. C'était absolument secret. Je ne l'ai dit à personne, pas même à mes meilleurs amis. Kylian non plus. Coup de chance pour lui, ça tombe cette semaine, hein, alors que débutent les votes pour le Ballon d'Or. Oui. Vivian Walt raconte également qu'elle a eu un peu de mal à le décrocher, cet entretien. Ce n'est pas le PSG qui a hésité, non, mais plutôt la famille du joueur. Pas vraiment rassurée de le voir parler de lui. C'est sa première interview personnelle, une famille en tout cas omniprésente, puisque son petit frère et sa mère étaient à ses côtés lors de l'entretien. Ça s'est passé au Parc des Princes. La journaliste explique avoir été frappée par le calme du joueur, à l'aise, tranquille. Mbappé n'a d'ailleurs pas hésité à se mettre torse nu devant le photographe. C'est la photo, hein, qu'on voit à la une. Il est, conclut-elle, extraordinaire, pas juste par son talent, mais aussi par son esprit et son charisme. Quand on lit ça, on a presque envie de dire Mbappé président. Le président, le vrai, qui fait cette semaine la une de tous vos hebdos ou presque. Challenge a ainsi enquêté sur son franc-parler, celui d'un teigneux qui ne veut rien lâcher. Titre Le Point dans l'Obs, Emmanuel Macron. Et chez le psy, 6 psychanalystes qui livrent leur analyse et posent leur diagnostic. L'Obs qui s'intéresse aussi cette semaine à un livre qui fait froid dans le dos. Alors, pas question de politique, mais de notre assiette. L'hebdomadaire a rencontré Christophe Brusset, qui signe un livre qui s'appelle « Et maintenant, on mange quoi ?». Cet ancien salarié de l'agroalimentaire, il a notamment été acheteur pour plusieurs enseignes, plusieurs industriels. Il raconte ce qu'il appelle les sales petits secrets du secteur. Comment, par exemple, un jour, il a vu arriver 100 tonnes de graines de piment indien pleines de cadavres de souris et de crottes. Deux, trois manips et un bon broyage plus tard, le produit était exporté dans le monde entier, présenté comme un condiment premium. Christophe Brusset raconte aussi comment les équipes de R&D, qui sont en principe chargés de la recherche et du développement, sont capables de faire des miracles avec les produits les plus médiocres, en y intégrant des épaississants, des émulsifiants, des stabilisateurs, bref, tout plein d'additifs. Vous savez, ceux qui commencent par E et qui sont écrits en tout petit sur les paquets. Oui. À l'arrivée, tout, dit-il, peut être masqué, même une odeur de pourri, de moisi et de pas frais. J'ai, conclut-il, travaillé dans les cuisines du diable, je vous l'accorde. Ce n'est pas très très appétissant, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Et qui plus est, si vous avez prévu d'aller faire vos courses ce week-end.
Et ben voilà qui est clair, c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Laurent Gérard est avec nous dans un tout petit instant.